Nous avons commencé une petite série sur les attributs, les noms de Dieu, hein, les qualités de Dieu, à partir d'un chant, « Nul n'est comme toi ». Et donc, on a vu « Nul n'est comme toi », on a vu « Dieu puissant » la fois passée, aujourd'hui on voit « Éternel ». Dieu est éternel, l'éternité de Dieu. Alors, on va rechanter cette première strophe de ce cantique. Avant là, d'écouter, de lire le psaume 90, qui sera la base de notre méditation aujourd'hui sur l'éternité de Dieu.
Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es
Amen. Le psaume 90, donc. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier comme il passe et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont tous comme un instant de sommeil, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit l'herbe, le matin et elle passe, on la voit, le soir et elle sèche. Nous défaillons par l'effet de ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux, à 80. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite, et nous nous envolons. Qui reconnaît la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance et nous serons triomphants et joyeux en toutes nos journées. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs et ta splendeur sur tes fils, que la tendresse du Seigneur notre Dieu soit avec nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, à qui rions-nous d'autre qu'à toi? Tu es les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors c'est surtout sur le verset 2, sur le verset 4, et sur le verset 12 qui sont devant nous, que nous allons appuyer notre méditation sur Dieu est éternel. Dieu est sans commencement et fin. C'est la première chose que nous rappelle ce texte. Dieu est éternel. Alors, quel grand sujet et quel glorieux sujet que de parler de l'éternité de Dieu. Quand nous commençons à réfléchir au fait que Dieu est éternel, nous devenons abasourdis, étourdis. C'est trop fort, c'est trop grand pour nous. Car nous vivons, nous, dans le temps, dans un temps limité. Et nos points de repère sont nécessairement temporels. Nous ne pouvons pas penser à autre chose qu'à ces repères temporels. Dieu, lui, est différent de nous. Il est dans une autre dimension. Et il est le Dieu d'éternité. C'est ainsi que la Bible nous le présente. Alors la Bible nous révèle que Dieu est éternel. L'éternité de Dieu signifie que Dieu est et qu'il a toujours été et qu'il sera toujours. Abraham, il est dit en Genèse 21, 33, invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'éternité, Dieu de l'éternité. Et dans le psaume 90 que nous avons lu, Moïse a médité sur la vie humaine qui passe vite comme l'herbe qui sèche. Puis il dit au verset 2, « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc Dieu est sans commencement. Les hommes et les anges ont un commencement, tandis que Dieu n'a pas de commencement. Au psaume 93, verset 2, il est dit « Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. » Et puis Dieu n'aura non plus pas de fin. Et le psaume 102, juste pour mémoire, dans les versets 25-28, nous le dit. « Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent d'âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras. Eux, ils s'useront tout comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes. » Le même, et tes années ne finiront pas. Donc la Bible décrit l'éternité de Dieu comme une durée sans fin. C'est une façon humaine de parler. Parce que nous avons une fin, et donc l'éternité pour nous, c'est une durée sans fin, forcément. Et Dieu s'abaisse à nous parler ainsi, dans des mots à notre portée, avec des images à notre portée pour révéler des réalités qui pourtant dépassent notre intelligence. Il ne faut toutefois pas comprendre son éternité comme une ligne de temps d'une durée infiniment prolongée, à la fois dans le passé et dans l'avenir. C'est plus que ça. L'éternité de Dieu signifie également qu'il n'est pas soumis au temps. Donc Dieu est au-dessus de temps. Il n'est pas dans le temps avec une infinie, donc comme on l'a dit, une infiniment prolongée dans le passé et dans l'avenir. Non, il est au-dessus du temps. Nous, nous sommes soumis au passage du temps. Notre existence est marquée par les jours, par les semaines, par les saisons, par les années. Il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Et le verset 4 du psaume 90 le souligne bien, « Car 1000 ans à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. » Donc c'est incompréhensible pour nous, car nous ne pouvons penser qu'en termes de temps. Notre vie est divisée en passé, en présent, en futur. Mais il n'y a pas une telle division en Dieu. Il est l'Éternel. Il est celui qui s'appelle « Je suis ». Exode 3, 14, qu'on a cité aussi il n'y a pas longtemps, « Je suis celui qui suis ». L'éternité de Dieu est un éternel maintenant. Pour Dieu, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Nous, nous subissons les contraintes du temps. Il nous manque toujours du temps pour faire ce que nous avons à faire, ce que nous aimerions faire. Dieu n'est jamais contraint par le temps. Il est élevé au-dessus de toutes les limites temporelles et de toutes les successions de moments. Dieu existe toujours dans un présent éternel. Son éternité signifie qu'il est toujours le même et son être éternel. Alors je cite seulement deux versets encore, un de l'Ancien et un du Nouveau, l'Ancien Testament, Ésaïe 44, verset 6. « Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Et Apocalypse 1, 8. « Je suis, dit Jésus, cette fois, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, il est notre Dieu. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est le Créateur et le consommateur de toutes choses. Il est l'origine et le but de toute l'histoire. Et donc l'éternité de Dieu signifie aussi qu'il est le maître du temps, pas seulement au-dessus du temps, mais qu'il est le maître du temps. C'est lui qui a créé le temps, qui l'a rythmé. Genèse 1, Dieu sépara la lumière des ténèbres, il appela lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, un jour. Dieu est le maître du temps, il est le maître des jours, il est le maître des saisons. Le temps est une créature au service de Dieu, comme toutes les autres créatures. Et depuis toujours, Dieu connaît les œuvres qu'il va accomplir dans le temps. Et simplement un verset parmi d'autres, acte 15, verset 18. Le Seigneur fait toutes ces choses connues de toute éternité. Il ne changera jamais de décision. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le Dieu éternel, ce Dieu que nous avons essayé de décrire rapidement, le Dieu éternel est lui-même entré dans le temps pourtant. Celui qui maîtrise le temps, qui est au-dessus du temps, il est entré dans le temps, hein, en faisant d'abord alliance avec son peuple, hein, dans l'ancienne alliance. Il a bien voulu marcher, hein, avec son peuple à son rythme, hein, et nous voyons cela tout au long de l'Ancien Testament. Et puis il l'a fait de manière encore plus étonnante, extraordinaire, hein, lorsqu'il s'est incarné en son Fils bien-aimé, Jean 1, début de Jean 1, au commencement était la parole, hein, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et à un moment précis de l'histoire, la parole, cette parole qui était Dieu, s'est faite chair. Jésus est le Fils du Père depuis toujours. En Jean 8, 58, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et il continuera d'être Dieu pour toujours. Mais en prenant notre nature humaine, il s'est soumis à un autre rythme, au rythme du temps, afin de mourir sur la croix pour nos péchés au moment fixé par le Père et de ressusciter le troisième jour. Ce que Jésus a fait dans le temps aura une portée dans l'éternité, aussi bien pour nous que pour Dieu. Alors c'est un mystère insondable. Et nous ne pouvons que nous écrier avec Éphésiens 3, 21, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Alors tout ça c'est bien beau, hein, mais comme pour les autres attributs de Dieu, on peut se demander, mais enfin, quelles sont les conséquences pour nous que Dieu soit éternel, hein, après tout, hein. C'est ça qui m'intéresse, on va dire, quelqu'un sans oser le dire. Alors tout d'abord, il y a au moins, hein, il y a plusieurs conséquences. Un rejet éternel, une consolation éternelle, et une joie éternelle, essentiellement. Alors un rejet éternel, tout d'abord pour ceux qui détestent Dieu, qui ne veulent pas de lui dans leur vie, sciemment. Son éternité est quelque chose de terrible finalement. Je cite un verset simplement, Jérémie 10:10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, lui le Dieu vivant et le roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. C'est un des grands thèmes de la Bible. Quand un homme nous déplaît, eh bien, nous pouvons le laisser tomber, sachant qu'un jour il finira bien par mourir. Mais Dieu ne meurt pas. Nous ne pouvons donc pas lui échapper. Si nous ne tenons pas compte de lui maintenant, il faudra bien un jour apparaître devant lui. C'est inévitable. Le fait que Dieu vive pour toujours est la garantie que sa punition contre les pécheurs obstinés durera pour toujours. Nous disons ça avec larmes, bien sûr. Au dernier jour, ceux qui l'auront rejeté durant cette vie se rendront compte trop tard, hein, qu'ils sont rejetés éternellement. Hein, que Dieu ne leur impose pas, hein, ce qu'ils ont refusé toute leur vie. Donc, un rejet éternel, c'est une conséquence de cet attribut de Dieu, mais aussi une consolation éternelle. Puisque Dieu est éternel, l'alliance qu'il fait, l'alliance de grâce qu'il fait avec nous en Jésus-Christ, est également éternelle. On va chanter tout à l'heure un beau cantique, hein, tiré d'Ésaïe 54, 8 et 10. Je le lis, hein. Je t'avais un instant dérobé ma face, mais avec amour j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. dit ton Rédempteur, l'Éternel. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alors c'est là une promesse merveilleuse. Il arrive que notre amour pour les autres se refroidisse. Et c'est souvent le cas. Nous avons vraiment besoin de mendier chaque jour la grâce de Dieu pour que notre amour soit à la hauteur de tout ce que Dieu nous demande. Et mais notre amour donc se refroidit. Mais l'amour de Dieu pour ses enfants ne se refroidira jamais, dit la Bible. Puisque Dieu est éternel, il est notre refuge en tout temps. Et au psaume 90, verset 1, que nous avons lu tout à l'heure, Moïse dit que le Dieu d'éternité, que Dieu d'éternité en éternité est pour nous un refuge de génération en génération. Nous pouvons donc compter sur lui en tout temps, dans toutes les circonstances. Et le psaume 48, verset 15 dit « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort, à travers la mort, au-delà de la mort, bien sûr. » Et donc, il est très réconfortant de savoir que Dieu est éternel. Peu importe ce qui arrivera, Dieu sera toujours là pour nous secourir. Ce Dieu qui est au-dessus du temps, qui n'est pas atteint par le temps, et qui est là pour toujours pour nous secourir. Et puis, il y a la joie éternelle. Une autre conséquence pour nous que Dieu soit éternel, c'est la joie éternelle qui est pour nous. Puisque Dieu est éternel, nous trouverons en lui notre joie complète pour toute l'éternité. Là, les mots nous manquent aussi. Il est vrai qu'un jour, la mort va nous surprendre. Que ce soit tôt, que ce soit tard, la mort va nous surprendre, à moins que le Seigneur revienne, bien sûr, pour nous prendre avec lui. Nous serons happés par lui dans les airs, nous le rencontrerons, et notre corps sera transformé. Mais ce qui est le cas le plus probable, c'est qu'un jour, la mort va nous surprendre. Notre âme ira rejoindre notre Sauveur et notre corps, au dernier jour, va ressusciter, incorruptible, plein de gloire. Il est impossible que les croyants unis au Dieu d'éternité puissent périr. Si nous avons part à sa vie spirituelle en Jésus, nous aurons part à son éternité. Et cette vérité est spécialement révélée, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Paul nous dit que lorsque Jésus viendra nous prendre, nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4:18. Il ajoute, « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Les gens cherchent à se consoler en disant, « Oh, voilà, des paroles qui sont très très faibles. » Nous pouvons nous consoler devant la mort que en pensant à ce que Dieu dit de sa victoire sur la mort et de l'éternité qu'il nous réserve. C'est en revenant à sa parole, en appuyant nos consolations sur la parole de Dieu que nous pouvons consoler nous-mêmes et consoler les autres. Alors il nous est difficile de nous imaginer ce que signifie que nous vivrons pour toujours avec Dieu, sans changer, sans vieillir. Pour nous, tout change et tout vieillit. Alors on a de la peine à trouver une autre dimension, même avec beaucoup d'imagination. Rien dans le passé ni rien dans l'avenir ne viendra diminuer notre joie. Cette joie sera toujours aussi fraîche, aussi glorieuse, même après toute une éternité, aussi glorieuse qu'au premier jour. Elle sera sans regret, sans désir non comblé. Imaginez ça. Une joie en Dieu tout aussi savoureuse et pleinement satisfaisante pour toujours. Les mots manquent. La gloire du Seigneur qui brillera perpétuellement sur nous sera aussi éclatante après des milliers et des millions d'années qu'au premier instant. Alors, nous ne pouvons que décrire partiellement, avec nos pauvres mots humains, ces réalités que nous décrivent les Écritures. Nous pouvons maintenant, et le psaume 90 nous y invite, faire 3 prières. Mais auparavant, j'aimerais poser encore une petite question. Quelqu'un avait demandé, jouer un jour au mot le plus long et au mot le plus court. Il y a toutes sortes de jeux de ce genre-là. Et quelqu'un avait demandé, mais quel est le mot le plus long finalement ? Et les autres avaient réfléchi, avaient donné toutes sortes de mots. Hein, ça dépend des langues. Il y a vraiment des langues où il y a des mots à rallonge. Hein. Mais on ne fera pas un concours hein, ce matin. Mais le mot le plus long, avait dit ce monsieur, c'est le mot éternité. Vous voyez, on reste dans le sujet. Le mot le plus long, c'est le mot éternité, quelque part. Et le mot le plus court, avait-il demandé ensuite. Alors là aussi, ceux qui jouent au Scrabble peuvent trouver toutes sortes de mots très courts. Le mot le plus court, avait-il répondu, c'est maintenant. Maintenant. Parce que maintenant ne dure qu'une seconde à peine. Mais c'est en ce temps le plus court, maintenant, que nous devons préparer, nous préparer à l'éternité. Voilà le grand message de la Bible. Ici-bas, nous vivons dans un temps qui passe, qui ne reviendra pas, le psaume 90 le dit. Et à la lumière de l'éternité de Dieu, la brièveté de notre vie est encore plus soulignée. Mais cette réalité inspire donc trois prières dans ce psaume 90 pour vivre, pour nous préparer dans ce maintenant si rapide à l'éternité. Alors la première prière, c'est le verset 12. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquiert la sagesse. Alors la sagesse dans la Bible, c'est de connaître Dieu, de vivre en communion avec lui, de craindre Dieu, de le respecter, d'obéir à ses commandements. Et donc, la vie est tellement courte, on l'a dit, que c'est d'une folie de ne tenir aucun compte de Dieu. Dieu a traité d'insensé le riche propriétaire de la parabole racontée par Jésus, qui formait des projets et parlait comme si la vie ne devait jamais s'arrêter. Vous vous souvenez, hein ? Je vais m'agrandir, je vais faire ci, je vais faire ça, insensé. Aujourd'hui même, cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Dans un second temps, nous prions, rassasie-nous tous les matins de ton amour. En effet, si au début de chaque journée, nous trouvons notre paix renouvelée dans l'amour de Dieu, eh bien, nous pouvons passer toutes nos journées, et chaque jour, d'une façon différente, comme le disent les versets 13 et 14. De plus, la joie de Dieu nous aidera à tenir bon pendant les années difficiles, les années de malheur, verset 15. Et Moïse, le peuple d'Israël, ont eu des années difficiles. Mais la communion, le pardon, la réconciliation, la communion retrouvée avec le Seigneur, les ont aidés à traverser ces années et arriver à la terre promise. Alors la troisième prière concerne notre ouvrage. Un des aspects tragiques de la mort est qu'elle interrompt notre travail et nous empêche de mener à bien nos projets humains. Cela n'est vrai cependant que pour ce que l'homme entreprend avec ses propres forces. Lorsque Dieu montre ses œuvres à ses serviteurs, il nous donne la force pour les accomplir et nous bénit. Et c'est lui qui fait prospérer l'ouvrage de demain. Versets 16 et 17. La seule œuvre durable est celle que Dieu a affermie. Et donc, nous pouvons faire cette prière avec confiance. Affermis l'ouvrage de nos mains, si c'est l'ouvrage que le Seigneur nous a donné. Et donc, la brièveté de la vie devrait nous encourager à acquérir la sagesse, on l'a dit. C'est-à-dire à faire de Dieu notre refuge en tout temps. La brièveté de la vie devrait nous encourager à trouver le repos dans son amour. Et la brièveté de la vie devrait nous encourager à accomplir un travail utile avec sa bénédiction. La vie est si courte, si éphémère, si entachée par le péché. Nous avons besoin de chercher sa bénédiction. Sa bénédiction sur nos vies, sur nos engagements, sur nos mariages, sur nos projets, sur notre Église, sur tout ce que nous entreprenons. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. On peut manquer de certaines choses, on peut avoir des hauts et des bas dans la vie, mais si on a la bénédiction de Dieu, et si on la garde, on a le bien principal qui ne nous sera jamais ôté. Et je termine avec ce beau verset d'1 Timothée 1, 17, à la gloire du Dieu éternel. Au roi des siècles, immortel, invisible, et seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.